Le Paris Saint-Germain s'incline 3 buts à 2 face au FC Barcelone en ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le débrief sur Paris Central, vous êtes en direct. Merci de lâcher évidemment des pouces bleus, de s'abonner. Évidemment, c'est très important parce qu'on a amené du lourd. On a deux chroniqueurs en plus par rapport à tout à l'heure. Monsieur Barry est avec nous ce soir. Comment ça va ?
Bonsoir à tous. Ça va très bien. Bah tiens, on a gagné. Pourquoi ça n'irait pas ? C'est logique.
Monsieur Ricoba est avec nous.
Bah écoute, content d'être là, mais pas content du résultat. Hein, y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va taper sur beaucoup de monde là. On est prêt à taper là. On a le coup du marteau.
Ah, mais on n'est pas ivoirien, ça le problème. Oui. Jean-Marc, encore avec nous. Comment ça va, mon ami ?
Ah, je suis un peu sonné quand même, parce qu'on y a cru en deuxième mi-temps. On a même cru qu'on allait vraiment faire un résultat, et puis boum, voilà, donc déçu.
Et Monsieur Basto est avec nous encore une fois. Monsieur Basto, on va commencer par vous. Je ne vous demande même pas comment ça va. Je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de la composition et de la première mi-temps faite, j'ai envie d'être poli, par le Paris Saint-Germain.
Quand on voit la composition et le positionnement, on avait dit qu'on était content si Dembélé jouait à droite et Asensio dans l'axe, ce qui est le cas. Donc quand on voit la composition de base, je me dis ça va. Le problème, c'est que dans les faits, on rate encore notre première mi-temps. On finit une entame qui est correcte pendant 10-15 minutes, mais même on était tous en train de le dire, on joue trop, attention, on se fait prendre dans le dos, etc. On voyait que même quand on avait une pseudo-maîtrise les 10 premières minutes, on n'était pas du tout serein. Donc c'est encore une première mi-temps ratée. Et j'en parlais les derniers jours, ça passe en Ligue 1, mais au bout d'un moment, quand tu rates une première mi-temps, tu ne peux pas en jouer en qu'une mi-temps. Sur un match comme ça, à chaque fois, ça ne peut pas toujours tourner dans ton sens. Donc, il faudra... On a défendu Enrique avec Jean-Marc à l'avant-match. Je pense qu'on le critiquera un peu plus ce soir. On a dit du positif sur une phrase. Oui. Donc, non, voilà, c'est un ensemble, mais on n'a pas le droit de rater une première mi-temps comme on l'a fait ce soir.
On n'a pas le droit de rater une première mi-temps, mais est-ce qu'on a le droit de rater un match comme ça avec Lucas Beraldo ou Recoba?
Oui, on a le droit quand on est jeune. Évidemment, ce soir, il est largement fautif. Clairement, il fait partie des flops. Son match, c'est un non-match. Et il a été en difficulté. Malheureusement, ce soir, il joue face à Lewandowski. C'est pas facile. Il a un cadre en face de lui et on voit que il était en difficulté. Il savait pas comment se placer. Et on en avait parlé aussi en avant-match que la gestion de la profondeur, ça allait être important. Et malheureusement, Beraldo, ce soir, là-dessus, il a été catastrophique, mais un peu comme toute la défense. Il y a même Lucas Hernandez qui était en difficulté, qui a fini à droite. Malheureusement, ce match-là, il résume un peu le PSG de cette saison, je trouve, c'est-à-dire aucune maîtrise. Et au final, on se retrouve à réagir. On réagit, mais derrière, on reprend des buts, on donne des buts. Et on a vu un PSG à réaction, et au final, ça n'a pas suffi. Mais le vrai problème qu'on a, je trouve, c'est qu'on n'a aucune maîtrise. Et c'est dommage parce qu'on avait commencé avec 15 bonnes minutes. Et même dans la deuxième mi-temps, on a 15 bonnes minutes. Et après, derrière, on s'effondre et petit à petit, plus rien.
Il y a Swapper qui nous fait un don de 10 euros en 10 ans. Bon, j'attaque en premier notre meilleur joueur et un blessé depuis 8 mois. Mbappé, meilleur joueur de Champignon League, sûrement Asensio, Beraldo et Donnarumma. Je vais pas en parler pour être poli. Barry, on pense quoi de Lucas Beraldo ce soir?
Je souffre parce que sinon je vais aller loin, mais non, faut arrêter. Tu prends l'exemple de Lewandowski, je suis désolé. Autant le premier but, tu peux le mettre sur le fait qu'il manque d'expérience, il se fait aspirer par Lewandowski. Autant le second but, c'est une erreur de niveau, de concentration, et c'est une bêtise, non, ça à mon sens. Je suis désolé, vous regardez l'action, le gars, il regarde même, et à aucun moment, il lève la tête pour voir s'il y a un appel dans son dos. À aucun moment, il est sur ses appuis pour se dire que, potentiellement, je vais devoir prendre la profondeur, parce qu'il y a Rafinha qui est sur le côté, qui, lui, est très bon dans la profondeur, alors qu'il est claqué contre un mur. On se prend un doublé de Rafinha, les gars. On se prend un doublé de Rafinha. Je sais même pas s'il a déjà mis un but cette saison. Je sais même pas, je crois qu'il est à 4 buts. Tu vois, les gars, je suis désolé. À un moment, moi, je veux bien qu'on arrive à lui trouver des excuses. Autant, moi, quand on me parle, quand on me dit qu'il y a un agenda sur certains joueurs, etc., Beraldo, je suis d'accord avec vous. Mais quand il est mauvais, faut le dire. C'est pas une histoire d'âge. Là, clairement, c'est une erreur de niveau et de concentration. Tu ne peux pas arriver dans un match de Ligue des Champions dans ton propre stade et avoir une défaillance pareille. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, pas à ce niveau-là. Le deuxième but, Autant le premier, je veux bien le mettre sur l'expérience parce que Lewandowski est un joueur assez très bon même. J'allais dire assez bon.
C'est un grand joueur, il restera dans l'histoire mondiale.
Qui sait comment se dépasser. Autant le second but, je suis désolé, il ne doit jamais se faire inspirer. Et si c'était que des buts, j'aurais dit ok. Mais toutes les situations dangereuses qu'à Barcelone, il est dedans. À un moment, les gars, moi je veux bien, mais il faut aussi dire les termes. Jeune, ok, mais à un moment, faut te réveiller aussi. Sois concentré.
Jean-Marc, est-ce que Beraldo, bon, on a vu que c'était oui. Moi, c'était quand même mauvais. Défensivement, qu'est-ce qui a été aussi quelque chose, qu'est-ce qui t'a heurté? Est-ce que Donnarumma était au niveau aussi?
Donnarumma, il faut reconnaître, ben, tu pousses ton coup de gueule sur Beraldo, donc ça va, c'est, on va pas l'accabler encore plus.
Oh, je l'accable pas.
Non, mais t'as fait juste ce que t'as dit. Mais Donnarumma, sur les trois buts, le premier, sa sortie, elle est trop courte. Le deuxième, ok, Beraldo se fait manger après, mais son dégagement, il est pourri. Il est complètement pourri parce que Beraldo fait une merde avant, on est d'accord. Ouais. Mais il est quand même pourri, il est plein axe au sol.
Il
est
une merde après aussi. Hein.
Et ensuite, sur le troisième, il doit être maître sur son petit rectangle et il ne l'est pas. Donc, ça, c'est Donnarumma. Hélas, on avait dit du bien de lui. Il nous donnait des assurances depuis quelques temps. Là, dès que le niveau monte et que la pression monte, il n'a pas répondu présent. Donc, ça, Donnarumma. Ensuite, je vais commencer à égratigner Enrique. Je suis d'accord avec toi sur Beraldo, mais pourquoi c'est Beraldo qui est sur Lewandowski au marquage, ouais, alors que Luca Hernandez, il le connaît par cœur?
C'est incroyable. Non, mais pourquoi
c'est
doit l'être.
C'est incroyable.
Ouais. Mais c'est incroyable. Je pense que les consignes, c'est Lucas qui doit l'être et que Lucas est complètement à la ramasse.
Mais non.
J'aurais
bricolé une dinguerie. Moi, personnellement, j'aurais bricolé une dinguerie, mais j'aurais changé d'axe. Parce qu'en termes d'anticipation, côté droit, Marquinhos aurait pu anticiper dans le dos de Beraldo.
Ce qui fait en deuxième.
Je suis d'accord avec toi. Je parle du match de Beraldo. Mais c'est encore pire, parce que Lucas Hernandez, c'est encore pire. Lui, pour le coup, il a l'expérience.
En deuxième mi-temps, il fait une très
c'est
bonne
deuxième.
C'est
encore
pire. Ouais, mais il joue à droite.
C'est encore pire.
Ouais.
Si
on a dû le mettre à droite parce qu'il était trop dangereux dans l'axe. Oui. Et on parle de Lucas Hernandez.
Et Beraldo, Beraldo, jusqu'à son erreur, effectivement, sur le deuxième but de concentration, parce qu'il rate un contrôle, puis derrière, il lâche. On parle de Donnarumma, la mauvaise relance, mais Beraldo, il lâche aussi le marquage total de Rafinha, le laissant dans son dos. Mmh. Mais juste là, on disait, il est mieux. Marquinhos le rassure plus que Lucas. T'avais Marquis qui gérait Lewandowski. Beraldo était moins en danger. Et Lucas Hernandez, bah, c'est juste qu'il déséquilibrait toute l'équipe en première mi-temps. On l'a dit, à un moment, c'est lui en fait qui déséquilibrait cette défense. Et quand il est à droite, bah, il est moins dangereux. Mais Lucas, c'est...
Il avait un train de retard sur tout.
Non, mais excusez-moi, il fait une bonne deuxième et, oui, mais à
c'est,
droite.
Et donc, mais pourquoi il s'est retrouvé à droite? C'est un peu comme Dembélé qu'on préfère à droite parce que dans l'axe, il est trop dangereux. Bah, là, Lucas Hernandez, c'était la même chose. Et donc, il a été meilleur à droite parce que dans l'axe, il était trop dangereux.
J'ai dit un truc à la mi-temps et ça aurait pu être... cohérent. À partir du moment où le côté droit est perdu parce que t'as pas Hakimi, moi Beraldo là-bas et mets-moi une. Pour moi, il y a deux solutions. Soit tu mets Beraldo, tu mets le chance d'axe et tu dis ce gars-là, je m'en fous, il y a Marquinhos derrière qui va compenser parce qu'il est latéral droit. Ou soit tu me dis, le côté droit, il est perdu. Je mets une charnière centrale, Marquinhos, Lucas Hernandez, qui est une charnière centrale de très haut niveau. Mais tu peux pas te permettre de bricoler pareil en Ligue des Champions. Et il y a même des gens qui m'ont dit, mais pourquoi il a pas mis Danilo Skriniar? J'aurais peut-être été d'accord, sauf que le coach voulait qu'on joue très haut la défense.
Et
les mecs, ils sont lents.
Et pour en revenir sur Donna.
Mais tu as complètement raison.
Donna fait des bourdes, etc. Mais c'est aussi lié à un manque de confiance ensuite de cette défense. Tout est lié. Il fait une sortie à 35 mètres de ses buts en première mi-temps. Après, il fait une sortie, il va au casse-pipe. Mais là, il se rate, Nuno sauf sur la ligne. Donc Donna n'a peut-être plus envie de sortir à ce moment-là. Et tu as tout un manque de confiance. Et quand tu as toute ta défense, sauf un joueur, bon, allez, Marquis a été bon aussi. Et Nuno Mendes a été bon. On en reviendra plus tard. Mais quand tu as 3/5 de ta défense qui est mauvaise, et c'était déjà le cas dans des matchs de poule, Milan, Newcastle, etc. Au bout d'un moment, c'est aussi le coach.
En fait, le problème, si on regarde ce soir, il y a un mec dans la défense des quatre, il y a un mec qui a fait un super match, Nuno Mendes. Il était où? À gauche, à son poste. Et au final, bah, c'est le seul qui n'était pas perdu sur le terrain, c'était lui, et il était à son poste. Beraldo perdu, Lucas Hernandez perdu, Marquis à droite.
Beraldo, il était
au début, ça
allait.
Marquis à droite,
ça a été. Voilà, Marquis. Marquis à droite, il était bon. Hop, on change, on met Lucas Hernandez parce qu'il est mauvais. On met Marquinhos dans l'axe. Bon, Marquinhos, il a fait son match, il a été très bon. Même, il a permis à Beraldo aussi d'être meilleur. Malheureusement, il a quand même fait des erreurs. Et au final, il y a eu énormément de joueurs qui ont fait des erreurs. Et surtout, tu as eu l'impression qu'ils étaient perdus. À l'image de Beraldo, t'as l'impression qu'ils étaient perdus. Ils savaient pas s'ils devaient avancer, s'ils devaient reculer, s'ils devaient prendre Lewandowski au marquage, s'ils devaient avancer sur lui, s'ils devaient rester à distance. Ils savaient pas quoi faire. Et pendant tout le match, ça a été ça. On n'a jamais trouvé les solutions. Ça a fragilisé aussi Donnarumma, comme l'a dit Basto. Mais je suis désolé, Donnarumma, on en a parlé plein de fois. C'est simple, il fait une super saison, parce qu'on est obligé d'en parler. Il fait une super saison, Donnarumma, on l'a dit, on l'a encensé, et à juste titre, cette saison, il nous a fait gagner beaucoup de matchs, beaucoup de points. Mais on l'a dit, le facteur qui va être important, c'est la Ligue des Champions, c'est les matchs importants, on attend de voir. Oui, c'est un des meilleurs gardiens cette année, on attend de voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions. On parlait d'un transfert, etc. On disait, on va voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions. S'il est bon, s'il est rassurant, on garde. Ce soir, malheureusement, il est défaillant. Et surtout, encore la relance, je m'en fiche un peu, mais le troisième but que tu prends de Christensen dans ta surface à un mètre de toi, t'es normalement le patron dans cette surface, c'est toi qui dois sortir, c'est toi qui dois le prendre, t'as les mains. Regardez Ter Stegen en face. Ter Stegen, il a capté tous les ballons. Kanginli, il en a mis je sais pas combien, il a capté tous les ballons. Donnarumma, zéro. Les sorties aériennes, zéro. Celui-là, c'est pour lui. Et il y a eu le premier but où il fait une sortie catastrophique. Donc, à un moment donné, il est super bon, mais il a trop de lacunes.
Et surtout, il est sauvé par Nuno Mendes où la sortie était...
En plus de ça, il y a la sortie, il doit en prendre...
Les amis, attendez.
Moi, il y a juste un truc sur ton argumentaire qui était très bon. Je suis d'accord avec toi sur 90% du truc. Mais il y a un truc où ça me dérange, c'est qu'il y a deux joueurs qui n'ont pas changé d'axe. Nuno Mendes qui fait un match exceptionnel et Berardos, qui, à preuve du contraire, il a joué à son poste tout match. Donc moi, je suis désolé, il a joué à son poste tout match. À un moment, moi, je veux bien qu'on mette son âge en avant.
Ah oui, t'es obligé. Voilà. Mais son match, il est très mauvais.
Tu vois, mais à un moment, faut arrêter.
Il y a
des rudiments du football où je suis désolé, là, des erreurs de concentration pareilles, c'est pas possible. Surtout quand tu vois qu'en seconde période, moi, je vois le visage arboré en seconde période. En tant que mec qui a déjà joué au foot, on sait ce qui s'est passé dans le vestiaire. On sait. Ça a gueulé. Le coach, il a chargé tout le monde. Il a dû leur dire, les gars, restez concentrés. Il a dû charger tout le monde. Ils arrivent avec un autre visage. Et il n'y en a qu'un qui ne change pas son visage sur tout le match. Il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Et à un moment, si tu n'as pas les cojones d'être sur le terrain, Mbappé d'ailleurs, lui aussi. Lui, t'inquiète pas, je le retiens.
Non,
si tu n'as pas les cojones, dis au coach, sortez-moi. J'ai pas le niveau. Et assume. Bien.
Messieurs, on a Valbas qui nous fait un don de 10 euros. En nous disant, le meilleur moment de la soirée, c'est le plateau. Merci la team pour vos lives et votre assiduité. Le chat, pensez à liker. Le live, c'est important pour le référencement. Et ben voilà, écoutez, Valbas, on te remercie, bien évidemment. C'est un auditeur plus que fidèle. Les gars, on a parlé de la défense avec le gardien. On va passer aussi au milieu de terrain parce que c'est Mifig Mirez. Hein. Dans le sens où, malgré que Vitinha ait mis un but et que Fabien Ruiz est à la passe, même si Kanguin a fait un match... à vous dans
moribond entre le bon et le mauvais.
Plus moribond, mauvais que du bon. Voilà. Que pensez de ce milieu de terrain? Qu'est-ce qui a été défaillant dans ce milieu de terrain, Baston?
C'est un peu un tout. En première mi-temps, quand Barça décide d'allonger dans notre dos, tu vois que là il y a un manque tactique. C'est qu'on sait qu'on laisse le ballon à Barcelone, donc tu dois mettre un mec qui va couper les trajectoires comme Ugarte. En deuxième mi-temps, c'est différent puisque t'es mené 1-0 et donc t'es plus obligé de faire rentrer Ugarte, etc., etc. Mais t'as un manque de pragmatisme dans nos choix, que ce soit du coach ou aussi dans certaines de nos circuits de balle. Il y a un manque de qualité aussi, parce que bon, on avait vu les matchs à Milan, on avait vu les matchs à Newcastle, et entre-temps, on est 25 fois vaincu, mais on joue en Ligue 1, et voilà, la Sociedad était en crise, c'était pas une équipe qui est dans un chapeau 1, et on tape le Barça, et on revoit toutes les mêmes limites qu'on a vues en fait en octobre ou novembre, et donc, il est force de constater... Et on le savait déjà, mais là, c'est vu de manière criante, qu'on a des manques. On sait qu'au milieu, il manque deux tauliers pour accompagner Vitinha. Il n'y a que Vitinha qui a été, encore une fois, vraiment au niveau. Il était 6 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est lui qui vient se projeter. C'est encore lui qui a failli faire le but du 3-2 pour Dembélé qui touche le poteau. Enfin, Vitinha, il est partout ce soir, que ce soit en phase défensive ou en phase offensive. Encore son but, projection sans ballon, ce qu'on ne voyait pas les dernières années. Lui, il le fait. Donc, tu as Vitinha et à côté, tu as Ruiz. On connaît Ruiz. On connaît Ali, et quand t'as les deux ensemble, c'est une puissance 1000 en fait. T'en as un, ça va, t'as les deux, et il n'y a pas de surprise malheureusement, et ça c'est dû à une manque de qualité de l'effectif, mais on en était conscient, et l'équipe en est conscient, puisque le directeur sportif a priori cherche deux milieux de terrain, et le coach aussi, donc en espérant pas nous tromper.
Jean-Marc, quel est ton avis sur ce milieu de terrain ce soir?
Non, mais je suis tout à fait d'accord, et je trouve que Zaïre Emery fait une bonne rentrée. Donc, du coup, autant on comprenait dans l'avant-match qu'il ne l'ait pas mis d'entrée, parce que ça faisait quelques matchs qu'il piochait un peu. Et bon, je me dis que ça aurait peut-être été mieux de le mettre d'entrée.
Il lâche le marquage sur le troisième but, quand même. Bon, pas la première fois sur des coups de pied arrêtés, ça.
Oui, c'est vrai que c'est lui qui est au marquage.
T'as vu la différence de taille avec Christensen?
Mais pourquoi c'est lui qui va au marquage du plus grand?
C'est lui qui va au marquage, enfin, c'est absurde.
Ça, c'est un truc récurrent, d'ailleurs. Parce qu'on est éclaté. Les plus petits sur les plus grands ou ceux qui ont la moindre
détente. On est éclaté sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison. On est la pire équipe en Ligue des Champions, et ce soir, on prend encore un but.
Kanginli, il est pas assez, il a pas assez d'impact. Et Ruiz, bon, il fait pas le pire match qu'il ait fait. Il a été bien, bien moins bon, notamment contre la Sociedad. Mais il est, c'est pas bon, quoi. C'est pas. Plusieurs fois, on le décale pour des tirs, mais il met 15 jours à tirer. 15 jours, c'est même pas le Barcelonais qui se sacrifie en faisant un tacle. Non, le Barcelonais, il se met devant, il a tout le temps. Alors que les positions de tir, c'était des positions préférentielles. Avec manque de bol, ça tombe sur lui. Mmh. Donc Ruiz, il n'est pas au niveau, c'est pas vrai. Je pense qu'il a du... Je sais pas, il a quelque chose, mais là, c'est plus possible, quoi. Donc voilà, oui, effectivement, il y a un problème de milieu, c'est clair. Et il a lâché Ugarte, mais moi, je pense que le milieu qu'on avait à l'automne, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, me paraissait beaucoup plus équilibré. Et Vitinha, un cran plus haut. On voit déjà comment il est dangereux quand il joue 6. Il était partout, effectivement. Bah, s'il jouait un peu plus haut, il aurait peut-être été encore plus partout. Il aurait été peut-être encore plus décisif.
Le problème, c'est que là, voilà, le Enrique qui n'a pas de pragmatisme, on le voit. Vitinha 6, Beraldo, c'est pour sa relance. Il veut sa relance basse. Mais aujourd'hui, on a mal relancé. Et derrière, bah, ça crée le déséquilibre. Et il ne revient pas à un plan B ou à un plan C, il n'en a pas.
On est quasiment 600 en live, il n'y a que 111 likes. Donc s'il vous plaît, on like. Et surtout, on partage pour qu'on puisse après lire vos commentaires en fin d'émission. Recoba, après Barry, le milieu de terrain, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais quel est ton sentiment principal ?
Bah, mon sentiment principal, c'est que j'en attendais rien. Est-ce que j'en suis déçu ? Pas forcément, mais on le savait que ça allait être notre point faible cette saison. On ne s'est pas renforcé à ce niveau-là. On savait qu'on avait des limites. Aujourd'hui, on est en quart de finale de Ligue des Champions. On est face au Barça, c'est leur point fort. Ce soir, il y avait De Jong qui était là, il y avait Gundogan. C'est un des meilleurs milieux de terrain de la planète depuis plusieurs années. Bah, voilà, on n'a pas fait le poids. On n'a pas fait le poids offensivement, on n'a pas fait le poids défensivement. Dans les transitions, on s'est fait bouffer. Dès qu'ils touchaient, ils arrivaient à relancer, à toucher leur milieu. Ils attaquaient directement la profondeur et ils nous ont fait très mal. Et malheureusement, à ce niveau-là, bah, on n'a pas nos joueurs au niveau. Il y a le seul qui a été au niveau dans tous les secteurs du jeu, c'est Vitinha. Lui, pour le coup, c'est une vraie satisfaction. Je pense que beaucoup s'interrogeaient sur son plafond de verre. Je pense que ce soir, il a répondu. Il a montré qu'au moins, on pouvait compter sur lui dans les prochaines années. Mais malheureusement, bah, on le savait. Donc, je ne peux pas taper sur ce milieu de terrain parce que j'attends rien forcément de Ruiz. J'attends pas beaucoup de Kanginli. J'en attendais de Vitinha, donc je suis très content de son match. Et il va falloir se renforcer cet été, on le savait. Et voilà, c'est le plafond de verre de ce milieu de terrain. Et malheureusement, dans les grands matchs de Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir un milieu de terrain dominant et on ne l'a pas été ce soir.
Oui.
Pour moi, ce n'est pas une histoire de plafond de verre. Parce qu'au final, on parle de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, toute la première mi-temps, il a un marquage individuel sur Gundogan. Gundogan, il ne fait rien tout le match. J'entends De Jong. Alors, tu as déjà un terme. Je ne sais pas comment ce terme-là peut exister avec lui. Classe mondiale.
Non, Gundogan.
Ah, ok, merci. C'est parce que si c'était De Jong, les gars...
Non, j'en ai même pas parlé de...
On en a pas parlé, il parle
de... Et Pedri aussi qui est rentré et qui distille un ballon magnifique.
C'est des bons joueurs, mais à part Gundogan, ils ont pas de milieu de classe mondiale. Au final, aujourd'hui...
De Jong et Pedri, c'est quand même au-dessus. Hein.
C'est pas vraiment le milieu de terrain du Barça qui était bon. Hein. Pour moi, c'était la prise de profondeur de Barcelone qui a été excellente. On l'a vu en première période. Ce qui se passait, c'était Ter Stegen qui envoyait des longs ballons. Parce que justement, on jouait très haut. Et en plus, comme on est très intelligent, parce qu'on est super malin, lorsqu'on joue très haut, on joue dans la moitié de terrain adverse. Mais c'est-à-dire que nos défenseurs, eux, n'ont même pas l'esprit de se dire « Bah écoute, faut savoir aussi gérer le milieu de terrain. » Parce que dès que je suis dans la moitié de terrain adverse, forcément, potentiellement, il n'y a pas de hors-jeu, ce qui est logique. Tu vois, donc à ce moment-là, on n'avait pas la bonne gestion. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est encore une fois sur Beraldo. Beraldo a toujours un train de retard pour suivre le deuxième défenseur qui est à côté de lui. Donc lorsque Luis Enrique demande aux joueurs de remonter, notamment Lucas Hernandez, on l'a beaucoup vu au bord du terrain, Luis Enrique qui leur demande de remonter, bah t'as toujours ce train de retard. C'est-à-dire que lorsque Lucas Hernandez monte, normalement, tu as une fraction de seconde, voire une seconde, pour que le deuxième décide de monter. Sauf que si le deuxième, qui est Lucas Beraldo, prend 2, 3, 4 secondes, bah malheureusement, à la position hors-jeu, t'es mort. T'es mort. Donc derrière, les hors-jeu sont très compliqués à gérer. Tu vois. Donc il faut faire aussi attention à ça lorsque tu demandes à tes défenseurs de monter. Il y a une cohérence dans les montées de ton bloc défensif. Mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite... par rapport au milieu de terrain, bah, moi, je trouve que le milieu de terrain, il n'a pas été si catastrophique que ça. Maintenant, moi, ce qui a posé problème dans ce milieu de terrain, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution en avant. C'est là le vrai problème. C'est qu'on a été peu inspiré. Défensivement, globalement, on a réussi quand même à tenir la baraque. C'est dans la prise de profondeur, on n'a pas été bon. Et voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Quand tu as le ballon et que tu fais rien avec, bah, tu retrouves
l'espoir. Mais pourtant, moi, j'ai vu quand même des actions où le milieu de terrain arrivait à donner du coup aux ailiers, notamment Ousmane Dembélé en première mi-temps, qui, je vais vous demander votre avis, mais qui n'a pas forcément été bon, et Kylian Mbappé. Donc, que pensaient nos ailiers aujourd'hui?
Ça.
Comme vous voulez.
Avant de
c'est fluide,
je vais t'en parler des ailiers, mais juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Mm-hmm. Tu parlais de pragmatisme, de manque de pragmatisme, et toi, tu parlais du Barça qui jouait long dans l'axe. Ben, il y avait un coach en face qui était pragmatique, parce que Xavi, on l'attend plutôt à faire du pipi caca, et on l'attend pas comme ça. Donc, il a été vachement plus intelligent que le nôtre. Et il nous a pris à, effectivement, il a vu qu'on jouait haut, donc il a dit, bah, jouez dans leur dos, les gars. Alors que nous, on a les deux ailiers, les trois attaquants peut-être les plus rapides d'Europe, ou parmi les plus rapides d'Europe, on a peut-être vu deux, trois tentatives de jeu direct un peu sur Mbappé. Mbappé, le nombre de fois, on va l'accabler, vous inquiétez pas. Mais le nombre de fois où il appelle le ballon à gauche et où il le laisse finalement, parce qu'ils ont compris que ça n'arrivera pas. Ils ont compris parce que on a besoin de faire 8 passes avant d'aller atteindre nos deux ailiers, alors que c'est des flèches. C'était un peu mieux avec Barcola en deuxième mi-temps, mais je trouve que Xavi, tactiquement, a été beaucoup plus intelligent que Luis Enrique et qui nous a pris dans l'axe. Enfin, c'est bête en plus, hein, il nous a pris. On n'attendait pas le Barça balancer des grands coups de botte dans l'axe, dans le dos de Beraldo pour essayer de toucher Lewandowski. On n'attendait pas ça. Et ben ouais, moi c'est pas mon job. Luis Enrique, il aurait pu l'attendre. Et une fois qu'il l'a vu, il aurait pu effectivement dire à ses défenseurs, les gars, vous descendez de 10-15 mètres. On va jouer bloc médian, on va pas jouer bloc trop haut parce qu'on va se faire manger dans le dos. Non, il a pas fait ça parce que il a son idée, il veut jouer, etc. Ça me gonfle. Maintenant, les deux ailiers, je sais pas si c'est des ailiers parce que je comprends toujours pas comment on joue, mais
En première mi-temps, il y avait Asensio qui devait peut-être faire un peu
mieux. Il y avait Asensio, donc en première mi-temps.
Mais c'est une information.
C'est un autre problème. Il y avait Asensio.
C'est un autre problème qu'il faut intégrer, c'est que en fait, on a beau dire c'est bien, on a un groupe, tout le monde peut jouer cette année. En fait, Enrique ne compte véritablement que sur 13 joueurs. Le 11 qui a débuté, Barcola et Emery. Le reste, les Danilo, les Bouchelet, les Skriniar. Enfin,
Danilo joue beaucoup quand même.
Oui, mais en Ligue des Champions, Ramos, tu sais que quand il jouera, Ramos, Hernandez, il jouera pas. Ugarte, il jouera.
Colomouani,
Ramos, tu as l'impression qu'il le fait rentrer par défaut 88e. Colo, c'est fini. Bon, après, il y a des raisons. C'est aussi le niveau des joueurs, hein, qui n'ont pas forcément le niveau. Mais c'est qu'à l'arrivée, on nous dit en Ligue 1, il y a un groupe de 18-19 heures en émulation. En Ligue des Champions, il n'y a plus que 13 joueurs. Et tu es obligé de mettre Asensio qui revient de blessure, qui a joué qu'un match et demi. Marquinhos qui revient de blessure, qui a joué qu'un match et demi. Barcola qui n'a pas joué depuis 2 mois, qui est le premier à rentrer en deuxième mi-temps. Et donc, c'est ces joueurs-là qui rentrent et pas des mecs qui ne sont pas blessés depuis 3-4 mois.
Mais tu vois, par rapport à
ce que tu vois, Barça qui met Pedri Christensen, par exemple, l'impact des remplaçants est beaucoup plus fort que nous.
Mais par rapport à ce que dit Jean-Marc sur la défense, en fait, moi, ça ne me dérange pas trop quand j'ai une défense qui joue haut. Ce n'est pas le problème. En fait, c'est son jeu. C'est-à-dire que c'est comme ça. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'avant le match, il nous parle de la mentalité Barça, etc. Il dit c'est moi qui l'ai. Et justement, il se fait prendre à ça.
Exactement.
Il se fait prendre par ça, justement. C'est là où Xavi Hernandez lui a dit, écoute, tu la veux, je te l'offre. Prends-la ta mentalité Barça. Garde-la et tu vas voir, je vais te tartiner avec. C'est ce qu'il lui a dit. Pour moi, c'est ce qu'il lui a dit. Mais c'est pas le sujet. Mais le truc, c'est pas vraiment le problème de jouer avec la défense haute. C'est que tu joues haut, c'est que tu acceptes de te dire que dans le dos, tu vas manger, mais il y a une gestion de la distance. C'est plutôt dans ça où je vais l'amener. C'est-à-dire que je joue en black media, etc. Maintenant, et là, on va revenir sur les ailiers, parce que quand tu joues très haut, moi, la mentalité
ça,
football,
ça m'intéresse.
La mentalité football de jouer très haut, elle est très simple. On va se découvrir. Donc potentiellement, on va prendre des buts. Et on va en prendre, c'est même pas potentiellement. En général, on prend des buts. Mais je vais toujours mettre un but de plus que toi. Voire 2 buts, voire 3 buts. C'est ça, la mentalité de jouer très haut. C'est ça, la mentalité du football total. C'est de se dire, j'accepte le déséquilibre de mon effectif défensif à la transition rapide, mais c'est pour t'en mettre extrêmement beaucoup offensivement.
C'est ce qu'il disait d'ailleurs au début de l'année.
Sauf que...
Il disait, je préfère gagner 5-4 que...
Exactement. Sauf que, quand tu arrives avec cette mentalité-là, et que tu as des occasions, parce que c'est ce qui a été dit par Jean-Marc, on en a des occasions, et par notre ami Gâteau, on en a des occasions. Mais quand tu as un Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde, qui nous fait sa déclaration d'avant-match, ouais, je vais pas me cacher. qui nous fait le malin depuis 2-3 saisons, voire même plus.
Tu peux nous dire, il était floqué quoi ton maillot ce soir?
Qui ça fait Non, il est floqué Mbappé, j'ai assumé, j'ai dit, je mettais un maillot floqué. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est floqué numéro 7. Donc ça veut donc dire que ça fait 7 années que ce monsieur est au Paris Saint-Germain. Ça fait 7 années qu'il nous fait des déclarations. En veux-tu, en voilà. Vous êtes pas content, triplé, patati, patata, toutes ces sorties, tu me parles pas d'âge, tout ça, toutes les sorties où. D'ailleurs, il mange un billet maintenant, vu qu'il les a déposées. Donc toutes ces sorties magnifiques. Pour arriver ce soir, face à Jules Koundé. Et le deuxième joueur qui est au marquage, c'était au milieu. Il y avait Arojo,
Bah,
il y avait
De Jong, alors, non ?
Et il y avait un troisième joueur, je crois que c'était Gundogan aussi, qui coupait la ligne de passe, etc. À des moments, bien, globalement, il était toujours en deux contre un.
En trois contre un.
Non, trois contre un, c'était sur certaines séquences. Mais globalement, lorsqu'il était... Lorsqu'il était sur les 10-15 mètres, il était souvent en deux contre un. Et en deux contre un, Kylian Mbappé nous a habitués à pouvoir faire la différence.
Il n'arrêtait pas de dire des conneries et qui servait à rien. Donc
bah moi je te le dis, mais t'inquiète pas, je vais charger. Tu peux essayer de me, charger.
Ce soir, je suis d'accord.
Tu peux essayer de me dribbler sur cette déclaration. En fait, c'est un passif. C'est-à-dire que Kylian Mbappé chaque année nous fait des déclarations pour arriver à la déclaration qu'il nous fait avant le match. Et toutes ces ce type de déclaration-là, il les a toujours faites. Quand il répond sur le terrain et qu'il nous fait son triplé au Camp Nou, etc. On se tait, on parle pas. Mais quand tu nous fais l'acteur à parler, et que lorsque tu as des occasions ce soir, tu as la possibilité d'éteindre le match, de prouver que tes paroles ne sont pas dans le vent, et que tu te vautres, faut assumer les critiques. Parce que, avant le match, hier, et Gâteau en a parlé, Haaland, il a fait un mauvais match.
Haaland, on nous a dit, nous ici, arrêtez de comparer à Kylian Mbappé.
Haaland s'est fait charger sur les réseaux. Voilà. Mais pourquoi Haaland il se fait moins charger qu'un Kylian Mbappé?
Haaland il rate tous ses gros matchs depuis un an. Donc.
Oui, mais faut se poser la question de pourquoi Haaland et Kylian Mbappé qui sont dans le même chapeau, qui sont deux joueurs du même acabit, pourquoi Haaland se fait moins charger que Kylian Mbappé? Mais il n'y a qu'une seule raison. Haaland a moins la grande bouche. Et donc quand tu mets la bouche et que au moment de ne pas se cacher, tu te caches, bah, tu mérites de te faire charger.
La raison, c'est que Mbappé ne prolonge pas, c'est tout.
Mais même s'il avait prolongé.
Non, mais il y en a plein qui défendent Mbappé et depuis ça, ils le défendent plus. C'est devenu la pire. L'année dernière. Après, il y en a comme vous qui sont restés.
L'année dernière, quand il se cache contre le Bayern au match retour. Oui, quand il se cache contre le Bayern et qu'il fait un match lamentable contre le Bayern. Il est encore au Paris Saint-Germain, il avait encore un autre contrat. Ouais, on savait pas qu'il voulait partir.
Oui.
On savait
mais il était moins attaqué que cette année.
Je l'ai chargé ou pas?
Oui, mais je parle pas de toi. Hein. Je parle d'une.
Moi, je suis pas vraiment dans ce truc-là. Au fait, Kylian, moi, j'aime beaucoup le joueur. Après, l'homme, c'est un autre sujet. Et puis, en plus, je le déteste même pas, l'homme. C'est le footballeur hors terrain qui me dérange. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, malheureusement, quand tu fais des déclarations comme ça en avant-match et que tu arrives et tu te caches, bah, on va te charger. Moi, personnellement, Kylian, j'en attends beaucoup au match retour. J'en attends beaucoup plus parce que des occasions, il en a eu. Tout à l'heure, Jean-Marc, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu m'as dit, il a peu d'occasions. C'est faux. Il avait la possibilité de se créer des occasions.
Cite-moi des occasions.
Messieurs.
Parce que d'habitude, Kylian se crée des occasions tout seul. Il n'en a pas eu parce qu'il n'a pas été bon.
Parce qu'il était très
messieurs, bon. Sur nos ailiers, s'il vous plaît, on va demander l'avis de Rekova. Parce qu'il y a Kylian Mbappé, oui. Il y a Ousmane Dembélé, première mi-temps, deuxième mi-temps, qui lui, quand même, qui a marqué un but. Et puis après, l'arrivée de Bradley Barcola. Comment tu as vu ça, Rekova?
Le meilleur, ça a été Barcola au final. Ça qui est triste, c'est que c'est Barcola qui revient sur une jambe, il revient de blessure et c'est lui qui fait des différences. Dembélé, sa première mi-temps, elle est abjecte, très clairement. Sa première mi-temps, elle a montré dans toutes les écoles de cirque le nombre de ballons perdus, le nombre de duels que lui... Parce qu'on parlait des occasions de Kylian Mbappé. Lui, pour le coup, il y avait deux mecs dessus, etc. Il n'a pas su se créer d'occasion. Au final, ce soir, il est invisible. Mais Dembélé, il a eu de l'espace. Il avait de quoi faire, de quoi donner des bons ballons, de quoi faire des différences, de quoi dribbler. Et en face de lui, il n'avait pas Koundé, Araujo ou un milieu de terrain. Il avait João Cancelo. Et face à João Cancelo, qui est un des pires défensivement, il a été incapable de passer en un contre un. Incapable.
Il n'a même pas essayé.
Et les seuls différents, il n'a même pas essayé. 3 heures pour prendre des décisions, etc. Bon. Deuxième mi-temps, il est remis dans l'axe, je crois. Et là, il fait une meilleure deuxième mi-temps. Il nous a marqué un but en glissant lui-même. Il ne sait pas comment il a fait.
Il va à gauche.
À gauche.
Après, il passe à gauche.
Il est au centre, il est plus axe gauche, je crois. Je crois qu'il est au centre, mais il joue. En gros, je crois qu'il est en mode numéro 10. Oui, et du coup, dans son positionnement, puisqu'il a toute la largeur du terrain, il est plutôt excentré côté gauche.
Enfin, bref.
Vous vous rendez compte, excusez-moi.
Son match, au final, il est.
On est en train de se demander.
C'est Dembélé. Il est pas bon.
Ou jouer Dembélé.
Non mais,
après le match.
Jean-Marc, moi je veux bien qu'on essaie de répartir les tâches, répartir les bonnes ou mauvaises tâches. Mais là j'ai l'impression que tu répartis pour faire en sorte qu'on parle moins de Kylian Mbappé.
Mais pas du lui tout. Qui, tu m'as pas laissé parler.
Lui qui est leader. Lui qui est
encore rien dit.
Lui qui est leader. Bah justement, je vais te lancer là-dessus, mais.
Je pense que c'était plus un agenda vers Luis Enrique. Voilà.
Ah oui, comme moi, j'ai senti celui-là. J'aimerais avoir ton avis sur la prestation de Kylian Mbappé, lui qui est le leader d'attaque. Après que Recoba a
terminé. Non, mais je peux finir sur Mbappé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir, il a zéro occasion. Barcola s'est créé des occasions. Dembélé s'est créé des occasions. Vitinha s'est créé des occasions. Fabian Ruiz a eu des angles de tir, même s'il met Milan et qu'il est contré. Tout le monde en a eu. Tout le monde. Sauf qui? Kylian Mbappé. Zéro occasion, il a su se dégager d'aucun marquage, faire aucun appel parce que Barcola a fait des appels, etc. Lui, comme d'hab, il a trottiné, il était là, aucun appel, aucun contre-appel, aucun danger, il est resté, il attend et machin. La dernière, à la fin, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il reste 3 minutes, il y a Barcola tout seul, il frappe pas, au lieu de la donner. Voilà, un match digne de Kylian Mbappé, comme l'a dit Barry, il parle. Ce soir, il a rien fait et je suis désolé. L'année prochaine, on va peut-être perdre 50 buts, mais peut-être que collectivement, on sera meilleur.
Jean-Marc.
Alors, non, moi je suis toujours frappé par la. Comment dire? Par la.
J'aime bien que tu commences comme ça parce différence... que je sais que tu vas dire.
Non, par la différence entre la réalité et votre surinterprétation.
Mais la réalité ce soir, il n'y a rien.
Mais attends, rien. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a été bien pris. Ils ont réfléchi à comment il fallait faire. Effectivement, ils étaient 2 voire 3 sur lui. Il aurait quand même pu en profiter. Rappelons-nous contre le Real, il y a deux saisons. Pareil, il n'a pas fait un gros match. Et puis, à la fin, il a un éclair, et il marque le but, on gagne 1-0. Il n'a pas fait ça ce soir. Donc, OK, il reste un deuxième match, espérons qu'il le fasse. Après, moi, j'ai du mal à comprendre vos histoires de « il a parlé ». On a vraiment l'impression que parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est un peu plus intelligent que la moyenne, vous le lui reprochez. Reprochez-lui de ne pas avoir d'occasion, pas de problème. Rapprochez-lui de lui avoir raté son match, pas de problème. Mais quel est le rapport avec ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on en a à branler?
Parce que je peux te donner.
Mais on n'en a rien à branler. Mais je vais c'est juste donner. Vous que ça énerve, parce qu'il est...
Ça m'énerve pas.
C'est pas Ribéry, donc il s'exprime bien, il est poli, il parle en anglais, il parle en espagnol.
Attends,
ça vous rend...
Laissez-la,
ça vous rend...
Vos histoires de c'est pas Ribéry ou quoi...
Dès qu'il rate un match sur...
Non,
vous lui tombez dessus. Et on a l'impression que vous avez envie de lui taper dessus.
Alors attends,
c'est ça qui est fabuleux. Alors, c'est pas ça à voir.
Attends une seconde, Barry, s'il te plaît. C'est pas question de Ribéry par Ribéry. On l'attend dans ces matchs-là. Parce que lui nous demande d'être là. Parce que lui nous demande d'être là dans ces matchs-là. Donc quand ces matchs-là arrivent, on le dit.
Mais je vais te le donner. Tu parles de ce que demande Donnarumma.
Mais justement, je vais te dire pourquoi.
Je ne parle pas.
Je vais te dire le problème. En plus, il ne parle vraiment pas beaucoup, justement.
Alors attends. On parle d'un candidat au Ballon d'Or. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Cristiano Ronaldo, dans les grands matchs, il est là, il marque.
En fait, le truc, c'est ça.
Il a raté des matchs.
C'est simple, c'est que s'il nous dit en déclaration d'avant-match,
c'est RCT et Messi en nombre de buts, en nombre de matchs à phase élimination.
Non, mais s'il nous dit en avant-match, il nous dit les gars, je sais pas moi, on va tout éteindre, il dit ça collectivement, on va pas se cacher. Moi, ça me dérange pas, il parle collectivement. Mais en fait, là où ça me dérange, et c'est là où justement la subtilité de ce que tu es en train de me dire, justement, Jean-Marc, c'est que Kylian Mbappé. Il parle collectif sur tous les aspects possibles. À chaque fois, il parle collectif. Dans toutes ses sorties médiatiques, il parle collectif. Sauf à des moments clés. Dans les grands matchs. Et dans les grands matchs, il attire la lumière sur lui. D'un côté, c'est bien parce qu'il attire la pression sur lui aussi. Les autres joueurs, tranquille. Mais à partir du moment où tu nous fais ta comédie, je vais pas me cacher, moi.
Quoi, t'as
moi,
ça une comédie?
Je vais pas me cacher.
C'est ça que je
trouve dingue. Attends,
le mec, il parle. Il pourrait fermer sa gueule.
Mais c'est le propre, justement, des grands joueurs. C'est le propre des. Bah, justement, c'est le propre des grands joueurs. Quand tu te mets en danger, quand tu te mets en danger et que tu veux prendre la lumière, ce qui est. D'un côté bénéfique aussi parce qu'il
sait de toute façon qu'il l'a, la lumière, arrête de dire des bêtises. Il le sait que les mecs comme vous, ils vont regarder que lui, qu'il va lui tomber dessus. Vous l'attendez comme ça à chaque fois.
Je peux finir. On l'attend comme ça justement parce que Ricobat a prévenu. Si on l'attend comme ça, c'est parce que c'est un top 10 ballon d'or, top 5 ballon d'or. Et je vais m'en aller encore plus loin. C'est un top 3 ballon d'or et il n'est pas 3ème. Ça veut dire que ce gars-là, normalement, cette saison, il est top de Ballon d'Or. C'est simple. Il réalise une saison en termes de statistiques où, normalement, possiblement, il peut avoir ce putain de Ballon d'Or à la fin de saison. Donc, normalement, c'est dans ces matchs-là qu'on attend ce gars-là. C'est pas dans les matchs où il va nous sortir un triplé contre je sais pas qui, là, il nous a fait quoi, là,
Lorient,
là,
ou Montpellier, Lorient, ou...
Ce qui est très bien. Oui, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Mais
je voudrais pas trahir. Attends. Je voudrais pas trahir.
Oui, mais oui, secret. Mais le problème, c'était qu'on parlait de Kylian Mbappé, on peut pas finir.
Après Basto, dernière phase, les gars.
Dans la défense de Kylian Mbappé, on peut plus finir. Parce que c'est Kylian.
S'il vous plaît.
Non, mais moi, il n'y a pas de problème, il a raté son match ce soir.
Mais alors, pourquoi un problème? Pourquoi, quand on dit,
t'arrives à dire, mais en rapport, le fait qu'il ait raté son match, il a raté son match, ok. Comme tu dis, il a des stats de dingue. Il a raté ce match-là. C'était pas un match à rater. Il y a un match retour. Et je dis pas qu'il faut attendre le match retour, mais on l'attend.
Ah si, je l'attends
retour.
Complètement. Mais sur le match retour, l'internet bon.
Attends, j'ai pas fini.
Ah oui.
Ouais, mais Bateau, il a pas commencé. Oui. Et puis, ça fait un moment quand même, les gars. S'il vous plaît.
Non, alors juste, pour être factuel sur Mbappé, ensuite, je vais le déglinguer. On me dit c'est dans ces matchs-là qu'il attend. C'est quand même le seul qui a mis un triple en finale de Coupe du Monde. Il est en avance sur Ronaldo et Messi au même âge et au nombre de buts à phase éliminatoire.
Il a mis un triple à Nansen.
Oui, bah alors, il a mis un triple
à
Nansen.
Non, mais attendez, je dis. Il a mis.
Il est représentant de
Parce que Colo Moigny, on dit on vous envoie l'équipe de France.
Mais laisse ça finir.
Contre le Real, quand on perd il y a deux ans sous Pochettino, c'est lui qui marque aller comme retour. Il a déjà brillé dans des gros matchs. On va pas le dire. Il est même en avance sur les buts en phase finale de Ligue des Champions. En termes de nombre de buts sur le nombre de matchs, il y a Haaland qui est devant lui, je crois, en termes de qui a mis plus de 20 buts sur les premiers matchs, je sais plus quoi. Mais il est en avance sur Messi et CR7. Donc on dit CR7 le faisait dans les gros matchs, pas Mbappé. Bref, maintenant, ce soir, ça n'empêche que ça a été le Mbappé exécrable qu'on n'aime pas. C'est celui qui va forcer les solutions, celui qui est tout le temps hors jeu, celui qui, des fois, oublie de décaler ses adversaires et va essayer de faire la décision tout seul. Et quand il ne marque pas, évidemment, il ne reste que le négatif. Si tu fais un match comme ça, il doit marquer. Sinon, ce n'est pas acceptable. Donc, Mbappé fait un très mauvais match. Maintenant, si on se recentre sur les ailiers, Dembélé aussi, à part son but, fait plutôt un mauvais match. Barcola fait un peu mieux, mais il y a un souci, encore une fois. Oui, il fait une bonne entrée, mais il y a quand même des soucis de finition, notamment quand il est trop lent pour frapper. Mais après, il revient de blessure. Mais il y a un problème, encore une fois, collectif, c'est-à-dire que les 1 contre 1, on n'en a pas eu assez. Il y a Nuno qui a apporté. Mon Nuno fait plus que Dembélé en première mi-temps sur des phases offensives. C'est qu'il y a un souci. Derrière, on est obligé de sacrifier Nuno parce qu'il doit être aussi derrière. Mais voilà, il y a eu un déchet dans les 1 contre 1, mais même dans les 1 contre 1, il n'y en a pas eu assez. Il y avait très peu de projection des milieux. Combien de fois on a dit il n'y a pas de mouvement. City, quand ils font des 1 contre 1 et que les joueurs sont un peu moins bons, c'est pas grave parce que tu as un latéral qui monte, parce que tu as des milieux qui peuvent se projeter là. À Paris, c'était très stéréotypé. Donc les ailiers ont fait un mauvais match, mais c'est encore une fois une animation offensive qui était défaillante plus globalement.
Et même l'animation défensive, elle est défaillante parce que tu fais en fonction de lui, tu places les joueurs aussi en fonction de Kylian. On a vu en première mi-temps Asensio se retrouver côté gauche. On sait que Vitinha aussi, il a souvent été sacrifié côté gauche pour lui. Et malheureusement, quand tu mets le collectif au service d'un joueur, tu es obligé d'en attendre beaucoup sur des matchs comme ça, puisque tu fais tout pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, tu attends qu'il te le rende. Il nous l'a rendu de nombreuses fois. Ça, c'est factuel, comme l'a dit Basto. Il est à 12 buts, je crois, en phase à élimination directe. Donc, c'est déjà exceptionnel. Et c'est largement en avance sur beaucoup d'autres joueurs. Mais malheureusement, on l'attend dans ces grands matchs-là. Ce soir, il a fait un mauvais match. On est obligé de le dire. Et pour finir, malheureusement, dans les grands matchs et pour gagner une grande compétition, tu as besoin surtout d'un grand gardien et d'un grand attaquant. Et ce soir, on a Donnarumma qui a été défaillant et Mbappé qui a été invisible. Donc...
Et on a besoin d'un grand coach. Voilà. Et Enrique a été défaillant.
Ouais. Enrique a été défaillant.
Je ne suis pas sûr.
Justement.
Justement. Attends, laisse-moi finir.
Ouais, mais les gars, le truc, il avance. J'allais relancer Jean-Marc pour un truc.
Bon, allez, vas-y.
Il faut que vous compreniez quelque chose. Les buts qu'on s'est pris, Jean-Marc, notamment le deuxième but de Rafinha et le but de Christensen, interviennent juste après des changements. Comment expliquer les défaillances qu'on a eues dû au changement de Xavi Hernandez? Moi, je veux avoir ta réponse là-dessus. Parce que...
Non, mais ce qui est emmerdant, c'est qu'on a fait, nous aussi, des changements. C'est ça qui est embêtant.
Qui ont été plutôt payants, aussi.
Oui.
Derrière.
Oui, en début de mi-temps, ouais.
Direct. Il fait un changement à la mi-temps, Barcola, et ça nous met, met deux buts coup sur coup, 2-1.
Mais
Xavi a répondu.
Donc, pour répondre à ta question, je sais pas très bien. Les mecs n'ont pas compris. Après, quand tu vois le corner, tu te dis, bon, c'est pas parce que... Christiansen, il est grand, et personne ne va au marquage, Donnarumma ne sort pas, il met une tête. Je ne peux pas dire que ce soit l'action la plus géniale. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être un autre grand geg qui aurait marqué, qui était sur le terrain depuis le début.
Donc,
je voulais juste terminer tout à l'heure revenir une seconde sur Mbappé. Ce qui moi me gêne, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Baston. Vraiment, c'est une analyse parfaitement complète. Mais ce qui me gêne moi, c'est que sans trahir de secrets de nos apartés quand on n'est pas en plateau, contre la Real Sociedad au match retour. Quand il marque le but incroyable qu'il met, j'ai senti que ça vous saoulait. C'est ça qui m'énerve.
Absolument pas.
Mais si, j'ai pas tous, mais certains d'entre vous, ça les saoule. Veux bien qu'on l'attende au tournant quand il est mauvais.
Qui...
Mais encensons-le quand... Non, jamais.
On dire qui, on l'attend
en
quand il fallait l'encenser.
Jamais tellement ça vous saoulait. En fait, vous étiez vraiment... Vous aviez tellement envie de lui tomber dessus.
En fait, Kylian, faut juste... Après, je m'arrête là.
Kylian, faut comprendre... Ça reste un joueur français du PSG, on a envie qu'il réussisse.
Moi, personnellement, Kylian... Alors déjà, la preuve, jusqu'à preuve du contraire, le maillot que j'ai qui est bloqué, c'est le maillot de l'année dernière. Cette année, j'ai encore un maillot doué, alors que cette année, c'est un déchireur que j'ai le plus chargé et que je charge encore. Et le maillot était floqué même après qu'il nous balance son histoire de Madrid. Donc, jusqu'à preuve du contraire, footballistiquement parlant, c'est un de mes joueurs préférés. C'est pas le sujet. C'est que Kylian, moi, si Kylian brille, le Paris Saint-Germain brille. Ce qui est logique. Comme l'a dit Rico Bas, c'est un truc que je répète tout le temps. Pour aller loin en Ligue des Champions, il faut un grand gardien, un grand attaquant. Si t'as les deux, déjà. T'as 50% de chance. Mm-hmm. Et ensuite, il te faut le reste.
Oui, tu vois. Oui.
Donc,
mais attendons, si on est là pour le défoncer.
Oui, on parle du soir. Moi, j'en attends énormément de Kylian Mbappé. Par contre, que tu fasses une mauvaise prestation, ça arrive. C'est le football. Mais que tu sortes une prestation pareille ce soir, moi, personnellement, quand je regarde son match, et je sais que je vais le revoir, peut-être que j'aurai une autre analyse. Et si j'ai une autre analyse, je ferai une vidéo en solo sur Paris Central pour dire « je me suis planté ». Pour moi, ce soir, il s'est caché. Tout à l'heure, je regardais mon téléphone pour regarder un peu les réactions, et t'as des mecs de Canal+ qui disent « ouais, mais si Kylian Mbappé fait un mauvais match, c'est parce que il manque de fraîcheur, parce que Luis Enrique le fait moins jouer ». C'est complètement faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas de la fraîcheur ce soir, c'est qu'il est pas bon. Il a pas été bon. Et que je pense qu'à un moment, il veut trop tirer la queue de soleil à des moments, il veut trop briller. Malheureusement, il n'est plus assez collectif et plus assez lucide à ce moment-là. Et pour vous donner un autre exemple,
c'est le seul moment où il fait une différence. Il s'entre en retrait.
Exactement. Mais tu vois,
une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit.
Mais pour te donner un ordre d'exemple, au Paris Saint-Germain, on a eu un joueur qui est arrivé pratiquement au même âge que Kylian Mbappé, c'est-à-dire à son prime physique. Et il est arrivé à 25 ans qui, à un moment clé où on a eu besoin de lui, il a voulu tirer la couette sur lui. Et ça s'appelle Neymar. Et c'était le premier match de Neymar contre Madrid où on se fait poutrer 3-1. Tout le monde me dit, Neymar, il fait un gros match. Le gars, il a tiré la couette sur lui. Il n'a pas fait un gros match. Il a été claqué. Et il a annihilé tout le collectif qu'on avait autour. Et bah, c'est exactement la même chose qui vient de se passer avec Kylian Mbappé. C'est un moment, à la fin du match, tu as des occasions. Barcola, il va à gauche, il lui donne pas le ballon. Bon, j'étais aux toilettes, je l'ai pas vu. Je vais pas mentir. Mais j'ai entendu, je l'ai revu le ralenti derrière. Donc j'ai vu ce qui s'est passé. Il tire la couette sur lui. Je t'aurais pissé, attention. À des moments, il a la possibilité d'envoyer un ballon dans la surface de réparation. Non, il veut tenter son dribble pour pouvoir mettre sa frappe. Lorsque Gonçalo Ramos rentre, et j'ai même fait la réflexion, parce que je savais que j'allais en parler. Gonçalo Ramos, c'est un bon joueur de tête. Parce qu'à preuve du contraire, ça veut dire que là, l'excuse de non, il balance pas de ballon devant parce qu'il n'y a pas de joueur de tête, elle n'est pas valable. Et en plus de ça, ce moment-là, quand je balance.
Ça, Enrique ne veut pas balancer des longs ballons devant.
On s'en fout. À un moment, il faut marquer. Tu mets un but, t'inquiète
pas. Ah, bah ça, je suis d'accord, mais bon.
Il se
fait engueuler quand
il va se taire. Mais tu vois, à ce moment-là, en plus, Kylian Mbappé a une bonne qualité de passe. Rappelez-vous, il envoie un extérieur du pied à Danilo il y a quelques années qui est magnifique. Et il y a beaucoup de centres qui ont été très beaux de sa part. Et je m'arrête sur cette phrase-là. Mais à ce moment-là, lorsque Gonçalo Ramos a juste un joueur en marquage individuel qui est Arojo. Mais tu peux. Et je crois que c'était Koubarsi à ce moment-là en plus en marquage individuel. Mais envoie-lui une galette. Il le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est qu'il est à des moments, quand il veut tirer la couette, il est trop perso. Dommage.
Ricoba, tu voulais réagir par rapport au changement de Xavi Hernandez?
Ouais, même des deux entraîneurs. Juste pour répondre à Jacques dans le chat, on a déjà parlé de Donnarumma, mais c'est juste que quand on parle de Mbappé, on peut pas parler de Donnarumma, de Vitinha, du collectif, de Luis Enrique, de ma tante. On peut pas tout faire en même temps. Du coup, pour en revenir au remplacement, en fait, je trouve que tactiquement, les deux ont été au rendez-vous. Je trouve que les deux coachs ont été au rendez-vous. Et on peut pas reprocher quelque chose à Luis Enrique, je trouve, parce que son changement... En fait, si on regarde les changements... Le changement de Luis Enrique est bon, il fait rentrer Barcola. Barcola fait la différence et il appuie sur quoi? Les points faibles du Barça, la profondeur. dans le dos de Cancelo, ce qu'on avait vu avec Ousmane Dembélé. Donc, c'est un choix payant au final, puisque Barcola a fait des différences et ça leur a fait du mal dans le dos. Et Xavi a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, on avait du mal en profondeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un artilleur, Pedri, capable de distiller des super ballons. C'est ce qu'il a fait. Il rentre un ballon, il la met parfaitement, il y a but derrière. Rafinha qui prend la profondeur, du coup, qui marque ce but. Et le domaine aérien, où Donnarumma a été défaillant sur ses sorties aériennes, où il a eu des problèmes tout le match. Et au final, il nous met Christensen qui marque sur corner, puisqu'on est la pire équipe en Ligue des Champions. Donc au final, Xavi a juste répondu à nos défaillances. Et Luis Enrique, pareil. Les deux se sont adaptés, ont fait les choix payants. Ça a été payant, malheureusement, plus de notre côté.
Il y a une grande différence, c'est que l'approche, c'est Xavi qui la gagne. La première mi-temps, c'est Xavi qui la gagne. Ensuite, Enrique répond, et 10 minutes après, Xavi re-répond.
Ouais.
Donc c'est Xavi qui gagne.
Enrique a répondu. J'ai pas dit que. Non, mais j'ai dit que les deux ont été au rendez-vous. J'ai pas dit qu'il avait gagné.
Parce qu'on rentre la première mi-temps, Enrique n'est pas au rendez-vous.
Ouais, mais Luis Enrique s'est adapté derrière, il y a 2-1.
Ouais, quand il s'est adapté, il y a 2-1. Il se réadapte tout de suite. Mais là, tu peux pas dire que Lucho est rendez-vous quand il rate une première mi-temps, et c'est pas nouveau.
Après, les gars, ça se joue à une action. Hein.
Et après, en plus, ça m'a fait revenir une phrase qu'il a dit, Lucho, parce que tu as dit c'est un corner, c'est Christensen et tout, mais même en première mi-temps, il y a ce corner en retrait où la défense n'est pas du tout dedans. Et j'ai repensé à ce que disait Enrique en début de saison. Je ne travaille pas les coups de pied arrêtés. Oh, bah, ça se voit.
Tu nous apprends.
Bah, ça se voit. Mais... après, il dit je ne travaille pas parce que c'est un but chaque. Je sais plus, on marque 10% des buts.
Non, puis même, il y a la grosse occasion de défilé où il met le poteau. Il y a Vitinha qui a dit
c'est dur de tomber sur le poteau. C'est dur de tomber sur le poteau. Ça s'est joué à une action. C'est Dembélé la pousse au fond.
Pour finir, vous parlez avec Mbappé de joueur d'ego qui veut montrer qu'il est sa star. Lucho fait exactement la même chose sur le cas Mbappé qu'il a instrumentalisé en disant je le mets pas là, je le sors à Nantes, je le sors après un triplé contre un. S'il ne fait que ça depuis qu'Mbappé a annoncé qu'il ne prolongeait pas, et ce soir, s'il est si mauvais, Mbappé, sors-le. Non, il le fera pas ce soir.
Ouais, mais tu peux mettre.
Personne. Mais c'est un acteur. On a dit Enrique, il a dit couille, j'ai entendu ça, il le fera. Il le mettra même pas contre la Sociedad titulaire. Non, c'est un jeu d'acteur.
Mais malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, on a Luis Enrique qui compte sur 13 joueurs. Et du coup, on a bien vu que ce soir, malheureusement, en sortie de banc, on était limité.
Oui,
en fait, on a du banc en Ligue 1, mais malheureusement, le banc en Ligue des Champions, c'est pas suffisant. Oui, on compte pas sur Ramos, ou Garté, on n'avait pas confiance. Colomoigny, on n'a pas confiance. Donc,
on le sait, on est en. Pourquoi il leur fait confiance?
L'effectif est en reconstruction, il manque encore des joueurs, il manque des joueurs au milieu de terrain. Voilà, après.
Non, mais pour moi, le tournant du match et le tournant des choix du coach, il arrive au moment où Dembélé a une occasion, il la met sur le poteau.
Et derrière, on prend but.
Derrière, on prend but. Tu vois, si Dembélé met le but, c'est fin de match. Même Barcola, l'action qu'il a lorsqu'il est envoyé dans la
Si Nuno en sauve pas 10, il y a 2-0.
Pour l'avoir revu, lorsque le ballon. Lorsque le ballon fait le premier rebond, il n'a pas les bons appuis pour pouvoir frapper. Et lorsqu'il fait son contrôle, Aroro revient bien. Donc voilà, ça reste que du football. Mais si Dembélé la pousse et la met au fond des filets, c'est pas le même match. Et on parle pas du choix du coach. Pour moi, les choix du coach, ils ont été bons. En seconde période, il a eu les bons réflexes. Mais à un moment, les gars, on parle beaucoup du coach, mais le coach, il est pas au bord de la pelouse avec sa manette. Il n'est pas en train de déplacer les joueurs comme si c'était des pions.
C'est ce qu'il veut nous faire croire, qu'on veut nous faire croire. C'est extraordinaire, tout c'est Enrique.
Ok,
c'est
d'accord. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, je t'ai laissé finir. Donc, il n'est pas au bord de la pelouse avec sa manette de PlayStation 5 en train de déplacer les joueurs, etc. C'est pas à lui. Parce que, par exemple, tu dis que oui, le coach te dit ne travaille pas les coups de pied arrêtés. Alors, je pense que c'est un peu faux parce que le gardien, lui, pour le coup, est obligé de les travailler parce qu'il est obligé de travailler le jeu à rien, que ce soit dans les centres, etc. Donc, il le travaille, le gardien. Lorsque le gardien se trouve avec sa sortie de balle, faut pas me faire croire qu'ils ont besoin de travailler les coups de pied arrêtés.
Quand tu mets Mery sur Christensen, c'est que c'est pas travaillé.
Il n'y a pas besoin. Mais dans tous les cas, Christensen est devant le gardien. Il met sa tête.
Ça, je suis d'accord, mais c'est un joueur qui va au duel et qui est là.
Sors-moi un gardien
on est d'accord.
Sors-moi un joueur sur la planète qui est capable de sauter plus haut qu'un gardien. Ça n'existe pas. Même si
c'est un joueur qui saute plus haut,
il ne saute jamais plus haut qu'un gardien. Le gardien, il fait 1m93, les gars. Faut arrêter, les gars. Il sait pas sauter.
Vous allez là, on l'a tous dit.
Le problème, il est là. Le problème n'est pas les coups de pied arrêtés. T'as parlé des deux coups de pied arrêtés. Ouais. T'as dit qu'on les travaille pas. Le premier coup de pied arrêté, Nuno Mendes sort pratiquement sur la ligne. Mm-hmm. Qui se trouve?
C'est pas un coup de pied. Ça, c'est un coup franc. Je te parle aussi du corner qui est mis en retrait. Il n'y a pas
c'est
un joueur. C'est un corner. Oui, ils l'ont travaillé. Ne serait-ce qu'offensivement.
Qui se trouve?
On n'a jamais fait une combinaison de notre vie offensivement.
Qui se trouve à ce moment-là, s'il te plaît? Qui se trouve? Pourtant, le joueur qui est devant.
Sur la passe en retrait, c'est toute l'équipe.
Le joueur qui est devant lui, qui est Lewandowski, c'est qui? C'est Donnarumma.
Non, mais là, tu parles du coup franc, tu parles pas du corner, on parle pas de la même action.
Ok, maintenant, mais t'as parlé de deux corners en première période.
Oui, mais c'est celle qui est mise en retrait à 25 mètres, le mec est tout seul pour frapper, c'est pas où Donnarumma.
Celui qui sort pas bien, c'est Donnarumma.
Paris, tu termines, après, on va passer au top left.
Je vais pas finir, je finis tant que j'ai pas fini.
Oui, mais tu termines ton propos, t'énerve pas.
Celui qui sort mal, c'est Donnarumma. Il sort trois fois mal. Il sort trois fois mal sur le truc. Donc, moi, je veux bien entendre qu'on travaille pas les coups de pied arrêtés. Tous les autres joueurs, ils sont capables de se faire allumer. Mais quand tu vois que les ballons qui sont ressortis lors des corners, ils sont juste devant le gardien et que le gardien a la capacité, et contrairement à ce que disait le coach, il dit qu'il ne travaille pas les coups de pied arrêtés. Le gardien travaille tout le temps, constamment ses sorties aériennes. Chaque entraînement, il travaille ses sorties aériennes.
Les golitariens moins que d'autres, mais...
Peut-être, très bien. Mais en tout cas, il les travaille tout le temps. Je suis désolé, lorsque tu as des sorties de balles à avoir dans le duel aérien qui sont à un mètre de toi et que tu as la capacité, ne me dis pas que c'est la faute du truc. Par exemple, juste après, je m'arrête là, la tête de Christensen, elle est devant le gardien.
Oui, on l'a dit, ça. Ouais,
et vous me dites, c'est la faute des autres.
On va pas redire la même chose, ah, si oui. On l'a dit.
Mais c'est une dinguerie. Pour moi, le vrai problème, c'est que le gardien n'est pas bon.
C'est une vérité. Le gardien n'est pas bon ce soir, l'attaquant n'est pas bon ce soir, et l'équipe en pâtit malgré qu'elle marque deux buts. Il y a comme de l'espoir pour le match retour. On a un but à rattraper. Donc, il faudra absolument marquer pour se qualifier. Après cette défaite, 3-2. Défaite 3 buts à 2, messieurs, je vais d'abord vos tops, s'il vous plaît, monsieur Jean-Marc.
Alors, les tops, bon, il y a Vitinha.
Je veux dire, côté Paris Saint-Germain ou côté FC Barcelone, t'as le choix.
Barcelone, je m'en fous complètement.
Oui, bah.
Donc, je mettrai Vitinha en top, Marquinhos. C'est difficile. Hein.
Bah, t'as le troisième.
Barcola.
Nuno.
Ah oui, pardon, j'ai oublié Nuno. Oui, bien merci. Nuno, ouais, ça c'est.
Je pense que on aura tous les mêmes, de toute façon.
Les flops, Donnarumma, Beraldo et Mbappé.
Non, mais il faut pas que tu te sens.
Non, je me sens pas.
Tu le mets parce que tu le penses.
Tu le mets parce que tu le penses. Faut pas me regarder.
Voilà. C'est tout.
Voilà, ça, c'est les trucs qui arrivent, ça.
C'est ça en fait, c'est qu'il faut dire la vérité, même si on le défend corps et âme, ce qui peut se comprendre, si on l'aime bien, si machin, peu importe, mais ce soir il a été mauvais, on le dit, et voilà, c'est tout. Bah moi j'ai les mêmes, hein, on va pas se mentir, mes tops c'est Vitinha qui fait un super match, c'est Marquinhos aussi, et c'est Nuno Mendes évidemment, comme j'ai dit sur Twitter, sans Nuno Mendes ce soir on en prend 7 quoi, c'est vraiment l'assurance tout risque, donc heureusement qu'il était là, et mes flops c'est Donnarumma, c'est Kylian Mbappé. Et il y en a d'autres, mais j'ai envie de mettre Lucas Hernandez, moi, en fait. Beraldo l'est sûrement plus, mais Lucas Hernandez, c'est un champion, c'est un mec qui a gagné la LDC, c'est des années et des années en équipe de France, Coupe du Monde, Bayern. Lui, il doit répondre présent. On l'attend plus, lui, que Beraldo. Donc, Lucas Hernandez, évidemment.
Basto, comment tu vois ça? C'est des avis différents ou pas?
Pas vraiment, j'ai les mêmes tops. Après, on a situé les flops. On aurait pu rajouter Dembélé sans son but, Lee. Enfin, on aurait pu en rajouter plein, mais c'est vrai que Lucas, c'est à lui d'être le patron de cette défense centrale. Mbappé, Donnarumma, vous l'avez dit. Mbappé, oui, mais pour la même raison qu'Mbappé, je vais insister, mais je mets Luis Enrique parce que tu me dis, il absorbe toute la pression, etc., etc. Mais bah, c'est quand même Mbappé qui doit prouver dans les grands matchs. Enrique doit le prouver dans les grands matchs. On s'est fait humilier à Newcastle. On a raté le match à Milan. On rate encore un match important ce soir. Et à chaque fois, on nous dit c'est un désastre de tous les joueurs, mais quand tu as 7-8 joueurs qui sont mauvais, c'est aussi collectif et donc c'est aussi le coach.
Marie, t'es top et flop, s'il te plaît.
Flop, Beraldo, Mbappé, Lee Kang-in.
T'as oublié Donnarumma, je pense, non?
Donnarumma. Donnarumma, j'enlève Lee Kang-in. Donnarumma, Mbappé, Beraldo. Clairement, j'ai pas besoin de répéter ce qu'on a dit, je pense qu'on est assez accablés. Et en top, s'il y en a, parce qu'au final, quand tu perds, pour moi, il n'y a pas de top, mais on va quand même en trouver. Nuno Mendes, que ce soit offensivement dans ses retours. Là, je viens de voir un mec qui vient dire que Lamine l'a mis dans sa poche. Alors, je ne sais pas quelle poche il avait sur son short. parce qu'il me semble que c'est interdit de jouer avec un short avec des poches, mais je ne sais pas qui va rentrer. Ce n'est pas avec Nuno Mendes. Hein. Ce n'est pas du tout avec Nuno Mendes. Donc, Nuno Mendes, qui est le meilleur joueur sur le terrain. Marquinhos, on n'a pas beaucoup parlé, mais Marquinhos, il a essayé tant bien que mal de tenir la baraque alors qu'il était latéral. À des moments, il m'est couvré derrière Lucas Hernandez et pour moi, ça m'a choqué. Il devrait peut-être un peu moins sortir, lui. Et le dernier top, Vitinha. Vitinha qui fait encore un grand match, qui prouve encore qu'il est au niveau. Contrairement à certains qui sont là depuis 7 ans et qui sont censés être les meilleurs joueurs du monde et pourtant qui se laissent porter par l'un des joueurs sur lesquels ils ont tiré l'année dernière lorsqu'ils parlaient de le recrutement fou et qu'il lève les yeux au ciel, bah c'est ce gars-là qui fait encore un grand match. C'est ce gars-là qui a fait un bon match l'année dernière contre le Bayern, pendant que toi tu t'es caché encore une fois en Ligue des Champions où on t'attend justement.
Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
sur Ouais, juste rajouter rapidement parce que il y en a qui parlent de Ruiz et Lee Kang-in dans les flops. Mais il y en a, voilà, on peut en mettre que trois. Et puis surtout, il y a des mecs qui doivent être décisifs qu'on attend avant eux. Ça n'empêche pas qu'ils aient fait un mauvais match, mais il y a des mecs qu'on attend avant eux. Donc forcément, on va les mettre en flop avant eux. Voilà, tout simplement.
Lucas Hernandez en flop.
Et il me semble que Nyx a encore joué des tours avec un titre très négatif. Mais je sais pas, mais il a mis un titre parce que j'ai vu les réactions dans le chat. Mais on reste positif quand même pour le match retour. Tout est encore jouable. C'est dommage d'avoir perdu à domicile, puisqu'en plus on est la seule équipe à avoir perdu à domicile sur les 4 quarts. Mais tout est possible encore. L'année dernière, la dernière fois face au Barça, on avait gagné 4-1 au Camp Nou. Tout est possible. Rien n'est joué dans ce match.
Ouais, et puis même pour terminer, moi je trouve que c'est quand même sévère cette défaite. Je pense que le nul aurait été beaucoup plus.
Ouais.
On aurait pu se refléter la physionomie du match avec des équipes qui avaient des moments, des temps forts, pas en même temps. Et je trouve que voilà, ce troisième but à la con. Là,
c'est ce troisième but
là. La différence, vraiment... c'est qu'au final, tu vois, par exemple, en première période, on a plus d'occasions qu'eux. Parce que lorsqu'ils mettent leur but, on est à 6 tirs côté PSG et 5 côté Barcelone. Et on était, à ce moment-là, à 50-50 en termes de possession de balle. Je me rappelle le truc que ça a affiché. Et pourtant, tu as 6 occasions. Tu en as 3 qui sont envoyées sur le gardien qui ne servent à rien. En fait, au final, c'est 2 occasions pour les stats. Et derrière, eux, les 5 occasions qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils en ont moins, elles sont dangereuses. Il est là le vrai problème. C'est qu'à un moment.
Non, mais en première mi-temps, c'est eux qui ont dominé.
Et encore, pour moi, en première période,
on a joué 10 minutes. Match.
C'est ça qui me dérange. C'est que, en fait, eux, lorsqu'ils ont un temps faible, ils tiennent. Le Paris Saint-Germain a un temps faible. Ouais, le Paris Saint-Germain a un temps faible et on se fait avoir à la concentration. Moi, je pense que tous les feux sont ouverts pour aller faire un grand match au Mandjouk. Faut pas me faire croire qu'on a en face de nous... Parce que, par exemple, j'ai entendu classe mondiale, le milieu de terrain. Faut pas me faire croire qu'on a face à nous une équipe qui est un monument, etc. C'est pas possible.
Non, mais t'as quand même des super milieux de terrain.
Normalement, tu ne dois pas perdre ce match-là jamais de ta vie. Surtout avec l'entame de seconde période que tu as fait.
Ce qui est marrant, c'est que, à part l'égalisation, c'est exactement le même scénario que le match du Real hier. C'est-à-dire, on prend un but, on égalise,
on va les éteindre.
2-1, ils reviennent, ils mettent 3-2, et on n'a pas la dernière reprise de volée dans les arrêts de jeu, non, c'était, ou dans les dernières minutes.
Ouais, c'est dans les dernières, ouais.
C'est pas fini.
Ouais, bah on va marquer.
C'est pas fini. Il reste 90 minutes, il reste un peu.
Et le Real a moins d'occasions que nous, mais ils ont des mecs comme Rodrigo, comme Valverde, comme Vinicius qui sont étalent dans la surface.
Qui ne se cachent pas. En tout cas, j'attends un crochet du droit d'un joueur et j'espère qu'il va le mettre, ce crochet du droit.
Donc, pour répondre au titre, PSG déjà éliminé.
Jamais de la vie.
Bien sûr.
Impossible n'est pas parisien, les gars.
On lâche un like, on est quasiment 600 live, on a 230 likes, c'est pas assez. Donc, on y va. Le débrief, les amis, est terminé. On vous remercie d'avoir été là. Merci Barry, merci Jean-Marc, merci Basto, merci Rico. Merci à Nyx en régie aussi qui fait les efforts. Merci aussi toujours à Canal Chat qui nous accueille en studio.
Et Edouard qui fait le son.
Tu prénommais Doudou, c'est ça?
Doudou, voilà. Notre Doudou à nous.
Merci à tous. On se retrouve donc en live samedi pour notre quotidienne. Le Paris Saint-Germain ne jouera donc pas de match avant le retour face au FC Barcelone. Toujours est-il, le Paris Saint-Germain a perdu 3-2, mais on garde espoir parce que ici c'est Paris.